Roger Mortimer avait écouté le banquier avec attention. « Je vois, messeurs, répondit-il, que les Lombards ont de bons espions à la cour d'Angleterre.
« Pour vous servir, my lord, vous n'ignorez pas que le roi Édouard a une forte dette envers nos compagnies. Lorsqu'on a une créance, on la surveille. Et votre roi, depuis beau temps, a cessé d'honorer son sceau, au moins à notre égard. Il nous a fait répondre par son trésorier, Monseigneur Lever Dexter, que les mauvaises recettes des tailles, les lourdes charges de ses guerres et les menées de ses barons ne lui permettent pas de faire mieux. Pourtant, l'impôt qu'il fait peser sur nos marchandises, rien qu'au port de Londres, lui devrait être suffisant pour s'acquitter. »
Un valet venait d'apporter l'hypocras et les dragées qu'on offrait toujours aux visiteurs d'importance. Tremeilly versa dans les gobelets le vin aux aromates, ne se servant à lui-même qu'un doigt de la liqueur.
Le trésor de France paraît pour l'heure en meilleure santé que celui d'Angleterre, ajouta-t-il. Connaît-on déjà, Monseigneur Robert, quel en sera à peu près le solde pour l'année?
S'il ne survient pas dans le mois écoulé quelque calamité soudaine, peste, famine, mariage ou funérailles d'un de nos royaux parents, les recettes passeront de 12 000 livres les dépenses. Ceci d'après les chiffres que Messire Mills de Noyer, maître de la Chambre aux Comptes, a avancé ce matin au Conseil. 12 000 livres de recettes. Ça n'est pas autant des Philippe, le 4e et le 5e, fasse Dieu que la liste en soit close, que l'on avait si bon trésor.
Comment parvenez-vous, Monseigneur, à connaître un trésor en surplus de recettes? Demanda Mortimer. Est-ce dû à l'absence de guerre?
L'absence de guerre, d'une part, et en même temps, la guerre. La guerre que l'on prépare, et que l'on ne fait pas, ou pour mieux dire, la croisade. Je dois dire que mon cousin et mon beau-père Charles de Valois utilisent la croisade comme nul autre. N'allez pas croire que je le tiens pour mauvais chrétien. Certes, il désire de grand cœur délivrer l'Arménie des Turcs, comme il désire tout également rétablir cet empire de Constantinople, dont il porta naguère la couronne sans en pouvoir occuper le trône. Mais enfin, une croisade ne se monte pas en un jour. Il faut armer des navires, faire forger des armes, il faut surtout trouver des croisés, négocier en Espagne, négocier en Allemagne, et le premier pas pour tout cela, c'est d'obtenir du pape une dîme sur le clergé. Mon cher beau-père a obtenu la dîme, et à présent, pour nos gènes de trésor, c'est le pape qui paie.
« Et là, monseigneur, vous m'intéressez fort, dit Tholomyï. C'est que je suis le banquier du pape, pour un quart avec les bardis. Mais enfin, ce quart-là est déjà gros, et si le pape s'appauvrissait par trop... »
D'Artois, qui prenait une bonne lampée d'Hippocras, pouffa dans son gobelet d'argent et fit signe qu'il s'étranglait.
« Ah ah ! S'appauvrir, le très saint père ! »
s'écria-t-il quand il eut avalé.
Mais il est riche à centaines de milliers de florins. Voilà un homme qui vous en remontrerait, Spinello. Quel grand banquier il eût fait s'il n'était entré en clergé.
Car il a trouvé le trésor papal plus vide que ne l'était ma poche il y a 6 ans.
Je sais, murmura Tholomyï.
C'est que les curés, voyez-vous, sont les meilleurs collecteurs d'impôts que Dieu ait jamais mis sur terre.
Et c'est bien ce qu'a compris Monseigneur de Valois. Au lieu de forcer les tailles dont les receveurs sont détestés, on fait quêter par les curés et l'on recueille la dîme. On se croisera un jour, en attendant c'est le pape qui paie sur la tombe des ouailles.
Tholomyï se frottait la jambe droite, doucement, depuis quelque temps. Il éprouvait une sensation de froid dans cette jambe-là, et quelques douleurs aussi en marchant.
Vous désiez donc, monseigneur, qu'il y a eu conseil ce matin. Y a-t-on pris ordonnance de grand intérêt ? Demanda-t-il.
Oh, comme de coutume, on a débattu du prix des chandelles et défendu de mêler le suif à la cire, comme aussi de brasser les vieilles confitures avec les nouvelles. Pour toute marchandise vendue en enveloppe, le poids des sacs devra être déduit et non compté dans le prix, ceci pour complaire au commun peuple et lui montrer qu'on s'occupe de lui.
Tholomyï, tout en écoutant, observait ses deux visiteurs. Ils lui paraissaient l'un et l'autre très jeunes. Robert d'Artois avait combien ? 35, 36 ans. Et l'anglais n'en montrait guère plus. Tous les hommes en dessous de la 60aine lui semblaient étonnamment jeunes. Combien de choses encore ils avaient à faire ? combien des mois à ressentir, de combats à livrer, d'espoirs à poursuivre, et combien de matins à connaître que lui ne connaîtrait pas. Combien de fois ces deux hommes-là se réveilleraient, respiraient l'air d'un jour neuf, quand lui-même serait sous terre. Et quel genre de personnage était Lord Mortimer? Ce visage bien taillé, aux sourcils épais, ses paupières coupées droit, sur des yeux couleur de pierre, et puis le vêtement sombre, la façon de croiser les bras, l'assurance hautaine, silencieuse d'un homme qui a été au fait de la puissance et qui tient à conserver toute sa dignité dans l'exil. Ce geste même machinal que Mortimer avait pour passer le doigt sur la courte cicatrice blanche qui lui marquait la lèvre. Tout plaisait au vieux siennois. Et Ptolémée eut envie que ce seigneur-là redevint heureux. Il venait à Ptolémée depuis quelque temps le goût de penser aux autres.